Anne-Sophie Rogge, avocate, bâtonnière donc du barreau de Tournai, 52 ans bientôt.
Quel métier rêviez-vous d'exercer quand vous étiez petite ?
Alors, ça dépendait des moments. Quand j'étais petite, je crois que j'aimais bien jouer à la bouchère. Donc, ça me plaisait bien. Après, j'ai vu Joëlle Mazar, une série où elle était assistante sociale dans une école et je rêvais d'être assistante sociale. Et puis, j'ai voulu être médecin sans frontières. Mais c'était surtout le sans frontières qui m'intéressait. Et puis, finalement, le droit vraiment pour être avocate. Pas le droit pour le droit. Mais l'idée d'être avocate et de défendre des causes, des personnes, est venue assez vite, je pense, vers 15-16 ans.
Vous vous êtes dirigée directement vers des études d'avocate ?
Oui, donc des études de droit, puisqu'il faut passer par là. Et puis après, le stage au barreau, le stage de 3 ans, mais qui est déjà un travail réel d'avocat. Donc on voit tout de suite de quoi il s'agit directement pendant le stage.
Et il y a quelqu'un de votre famille qui fait déjà ce métier ?
Non, il n'y avait personne. C'est vraiment en m'intéressant, je pense à des personnages, Gisèle Halimi ou des femmes un peu comme ça, ou des hommes, des avocats que je voyais dans des dossiers et qui me paraissaient vraiment impressionnants. Et je trouvais que c'était le beau sens de la justice.
Depuis combien de temps pratiquez-vous votre métier ?
Alors, j'ai commencé en 1996, donc il y a 28 ans bientôt. Oui, 28 ans bientôt, donc le stage, les trois ans de stage, et puis après la poursuite de la carrière. Je n'ai jamais quitté le barreau.
Vous avez un domaine de prédilection ?
Alors, je fais pas mal de droit de la famille au sens large. Ça peut être aussi le droit de la jeunesse, donc les divorces, les séparations, les procédures protectionnelles. Et je fais aussi du droit des étrangers, donc c'est-à-dire les procédures d'asile, la question du statut des sans-papiers, comment leur obtenir un statut en Belgique, la question de la nationalité, de la patrie. Donc le domaine des étrangers qui est évidemment très différent du droit familial.
Et qu'est-ce qui vous attire dans ce métier ?
Alors ce qui m'attire dans ce métier, c'est à la fois de défendre les intérêts ou la défense des personnes, notamment des personnes fragilisées. En matière familiale, on a des personnes, des femmes victimes de violences, parfois au quotidien, et pouvoir les aider par les procédures pour qu'elles puissent s'en sortir, avoir une vie plus digne, avoir une vie moins dans la peur. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en droit des étrangers, là aussi, ce sont des personnes vulnérables parce que quand on est demandeur d'asile, on arrive fragilisé par ce qu'on a vécu dans son pays, par le parcours, hein, le combat pour arriver ici, et puis les procédures qui sont complexes. Pareil pour les sans-papiers, les enfants sans-papiers, enfin bon, il y a vraiment de quoi faire. En fait, c'est un domaine où il y a de quoi faire, il y a du boulot. Et alors, j'aime bien aussi l'aspect indépendance. Puis alors, j'aime bien un bâtonnier, sauf que là, je suis le bâtonnier. Mais j'aime bien l'idée d'être indépendante, d'être un peu mon propre chef. Je m'organise comme je le souhaite. Bien sûr, il y a les audiences, bien sûr, il y a les rendez-vous à placer, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est quand même pouvoir être autonome et choisir sa façon de fonctionner.
Où vous trouvez encore cette énergie après 28 ans et surtout le sens en fait de votre travail ?
Alors, c'est comme tout. Parfois, je l'ai vraiment, j'ai beaucoup d'énergie et parfois, j'en ai moins en me disant « mais je suis qu'un pion dans un jeu qui est un peu déjà fait au départ ». Et puis, l'énergie revient. Je pense que c'est un peu comme tout un chacun. Il y a des hauts et des bas, mais globalement, je trouve qu'il y a plus de côté positif que de côté négatif et je pense que c'est ce qui me fait continuer aussi dans cette voie-là. Ça me plaît bien et le travail en tant que bâtonnière est aussi tout à fait autre chose. Hein. Gérer le barreau au quotidien, les conflits entre avocats, les conflits entre clients et avocats, la communication du barreau, les grands débats du barreau. Ça apporte autre chose, c'est une autre vision, une autre façon de voir le métier d'avocat.
Justement, on dit bâtonnier ou bâtonnière ?
Alors ça, on choisit. Moi, j'ai choisi bâtonnière parce que je me suis dit, je dis avocate, je dis bâtonnière. Je ne fais pas une maladie si on me dit bâtonnier, mais je sais aussi que j'ai des consœurs bâtonnières qui se font appeler bâtonniers et qui ne veulent pas se faire appeler bâtonnière. Elles considèrent que c'est la fonction, le statut de bâtonnier. moi, j'ai tendance à penser que c'est important de féminiser les noms pour qu'on s'y habitue, pour que ça apparaisse comme normal. Mais comme je l'ai dit, c'est pas grave si on me dit bâtonnier. C'est pas fondamental.
Vous avez été élue par vos pairs. C'est une sacrée reconnaissance.
Oui, c'est une belle reconnaissance. On est élue donc au mois de juin, donc à l'Assemblée générale du mois de juin pour 2 ans. Hein. C'est un mandat de 2 ans. Et précédemment, j'avais été élue 2 ans avant comme vice-bâtonnière. Donc, on travaille en partenariat avec le bâtonnier pendant 2 ans pour se préparer à la fonction. Et puis 2 ans de bâtonnat sur base d'une élection du barreau. Donc effectivement, c'est une reconnaissance, c'est aussi un stress. Hein. On souhaite être à la hauteur. Voilà, oui, c'est une belle reconnaissance.
Vous avez donc toute une procédure justement pour devenir vice-bâtonnière et...
Alors, pour devenir vice-bâtonnière, en ce qui me concerne, on m'a proposé de devenir vice-bâtonnière dans le but évidemment d'être bâtonnière. Et donc, je me suis dit, mais moi, pourquoi moi? Alors ça, c'est peut-être un peu le sentiment d'imposture que peuvent vivre les femmes, je pense, peut-être un peu plus que les hommes, de se dire, mais non, mais quelle idée, moi? Et puis, j'étais dans les conditions, puisqu'il fallait avoir fait 5 ans de conseil de l'ordre. Hein, donc, le conseil de l'ordre, c'est un peu comme un conseil d'administration au niveau du barreau, ou l'Assemblée... Non, c'est pas l'Assemblée générale, c'est plutôt le conseil d'administration. J'avais fait 5 ans, j'étais dans les conditions, et puis j'ai réfléchi quand même pendant 6 mois. Et puis je me suis dit, allez, j'y vais. C'est une sacrée tâche, une sacrée fonction qui demande beaucoup de temps à côté de son boulot quotidien d'avocat. Et je me suis dit, bon, j'y vais, je ne réfléchis plus, j'y vais. J'ai dit oui à un soir de 24 heures, donc ça aide à dire oui.
Et donc, vous avez dû réorganiser votre travail, alors j'imagine.
Alors oui, j'ai dû réorganiser mon travail. Je travaille notamment avec mon cabinet secondaire à Tournai, où on est 5. Et ils m'aident notamment pour les audiences, parce que je ne peux pas toujours aller aux audiences. J'ai d'autres réunions en tant que bâtonnière, où j'ai des bâtonniers à Bruxelles une fois par mois. Donc voilà, il fallait effectivement trouver des solutions. Je travaille un peu plus le week-end, hein, il n'y a pas de miracle. Et j'essaye de déléguer quand je peux déléguer avec des collaborateurs. Oui, c'est un peu une nécessité.
Avez-vous rencontré des problèmes en tant que femme pour vous intégrer dans ce secteur ?
Moi, je n'ai pas rencontré de problème en tant que femme. En tant qu'avocate, j'ai commencé mon stage dans un cabinet, le cabinet d'Edouard Vandal à Moucron, qui était un cabinet plutôt commercialiste et civiliste général. Il y avait plus d'hommes que de femmes, mais ça n'a jamais été un problème, vraiment pas. Et au barreau, en général, je ne le ressens pas. Comme bâtonnière, peut-être que parfois, on n'est pas nombreuses, hein. Il y a parfois un peu ce sentiment qu'on serait peut-être un peu plus pris au sérieux si on était un homme, de temps en temps, mais ça reste anecdotique. Donc, c'est pas un souci. Je pense que c'est peut-être moins le cas que dans d'autres professions.
Donc, pour vous, c'est plus une question de personnalité, de compétences que de genre.
Oui, je pense. Et puis, il faut aussi dire que c'est une profession qui s'est beaucoup féminisée. On est plus de femmes que d'hommes au barreau, et au barreau de Tournai notamment. Donc, c'est une réalité que les femmes sont présentes. Et si elles sont présentes en nombre, bien, fatalement, elles ont un poids dans la vie quotidienne du barreau.
Vous avez une explication sur le fait que ça se féminise ?
Alors, les vieux avocats disent que c'est à cause de la paupérisation de la profession et du monde en général, et que finalement, les femmes vont travailler comme les autres. Moi, je pense que c'est simplement parce que plus de femmes font d'études supérieures de longue durée, et qu'elles choisissent aussi d'être avocates. Dans le passé, il y a peut-être 50 ans, il y avait beaucoup moins de femmes, mais beaucoup moins de femmes travaillaient et avaient un certain type de profession. Donc, c'est quelque part un peu une évolution générale de la société, je pense.
C'est un travail avec des horaires décalés, pas évident de concilier une vie de famille, une vie sociale.
Non, c'est pas évident. Ça peut être un problème. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir de la famille proche à Moucron, et donc mes filles ont eu l'occasion d'aller chez les mamies et dans la famille après 4 heures toute leur jeunesse. C'était une facilité. C'est pas le cas actuellement toujours pour les jeunes avocats et les jeunes avocates, parce que certains quittent la profession parce que c'est lourd justement. C'est lourd, ce statut d'indépendant, avec des horaires où on commence tôt, on finit tard, parce qu'il faut pouvoir mettre des rendez-vous en fin de journée, il faut pouvoir travailler le week-end, il faut parfois travailler le soir. Ça dépend de l'urgence de la procédure. Et je pense que les jeunes ont peut-être moins envie de passer, de donner tout et de passer tout le temps dans leur profession. Et peut-être qu'ils recherchent autre chose.
Un équilibre.
Un équilibre. Ils ont peut-être d'autres valeurs en se disant bah, « je dois mieux concilier, je dois avoir mon bien-être ailleurs, je dois avoir plus d'activité en extérieur ». On le ressent tout cas, en tous les cas, nous, dans la jeunesse, qui dit ben, « moi, un 8-20 et parfois au-delà de 20 heures, le week-end, etc. » sans toujours gagner des fortunes, parce qu'évidemment, on a l'image encore de l'avocat hyper riche et bourgeois, je pense que ça, ça a un peu changé aussi. Et donc, cette réalité financière, plus peut-être le souhait de fonctionner autrement, fait qu'on a pas mal de jeunes qui quittent à la fin du stage, pendant le stage ou dans les années qui suivent. Donc, c'est une réelle inquiétude aussi, parce qu'un barreau vivant, un bon barreau, c'est un barreau où on est suffisamment nombreux, avec des hommes et avec des femmes.
Mais ils restent quand même dans le secteur ?
Alors, généralement, ils restent dans le secteur. Donc, juristes en entreprise, en banque, dans les assurances. Certains envisagent plutôt une carrière d'enseignant. Mais en général, dans le secteur du droit, oui.
Selon vous, il existe encore des inégalités hommes-femmes dans votre secteur, que ce soit en matière salariale ou dans les conditions de travail ?
Alors, nous sommes indépendants, en tout cas au barreau de Tournai. Je dirais qu'il doit y avoir des écarts au niveau salarial parce que on ne fait pas nécessairement les mêmes matières. Donc, c'est un peu caricatural, mais il y a plus de femmes dans le monde du droit familial et il y a plus d'hommes dans le droit des affaires, le droit commercial, donc l'entreprise, enfin, le domaine civil au sens large. Et ce sont des secteurs qui ne sont pas rémunérés de la même façon. On ne paye pas autant si on est une personne seule qui doit divorcer qu'une grosse entreprise qui fait appel à un professionnel spécialisé pour une question spécialisée. Il y a des différences. Donc, elles sont liées, je pense, plus au choix et au domaine qu'on pratique. Et comme il y a plus de femmes dans les secteurs, peut-être un peu moins rémunérateurs. Alors, évidemment, il y a des exceptions. Évidemment, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais c'est quand même un peu une réalité.
Considérez-vous votre métier comme un métier d'homme ?
Non, je ne le considère pas comme un métier d'homme. Non, c'est vraiment un métier qui va aux hommes et qui va aux femmes. Et je vous dis simplement, peut-être plus par rapport à ma fonction de bâtonnière, ça, je me rends compte que je suis plus dans un monde d'hommes. À l'AG des bâtonniers, il y a plus d'hommes. Dans le conseil d'administration d'avocat.be, il y a plus d'hommes. Et quand ce sont des réunions officielles, je dirais qu'au plus, on monte, hein, on le sait, on a des assemblées d'hommes plutôt que de femmes. Mais ça change vraiment. Donc, par exemple, pour avocat.be, donc, qui regroupe les bâtonniers donc, francophones et germanophones, on est 11 et nous sommes 4 femmes cette année. Il y a eu des années où il n'y en avait pas. Et l'année passée, on était 3, cette année, on est 4. Donc, tout ça évolue quand même beaucoup.
En quoi être femme dans votre métier peut être un atout et, à contrario, en quoi une femme dans votre métier peut-il être un désavantage ou un inconvénient ?
Je pense que ça peut être un atout parfois par une certaine sensibilité ou une certaine façon de penser et de fonctionner. Dans certains dossiers, ça peut être le côté... dans le droit familial, bien sûr, il y a peut-être un peu la fibre plus affective encore que. Mais ça peut être aussi parfois un sens pragmatique différent, une façon différente de voir les choses par rapport au conflit, par rapport à certaines choses. Je vois, les femmes et les hommes ne réagissent pas toujours de la même façon. Et un inconvénient, je n'en vois pas vraiment. Non.
Tant mieux. Est-ce qu'il y a une certaine sororité entre les avocates ?
Oui, quand même. Je peux me rendre compte que il y a parfois il y a un souhait parfois de mettre des choses en commun, de parler de choses ensemble, mais c'est encore quelque chose qui est spontané. On ne fait pas des assemblées de femmes pour faire des assemblées de femmes, mais c'est agréable d'avoir des moments ensemble, de partager des choses ensemble, notre quotidien, nos soucis, des choses finalement qui nous rassemblent. Comment on fait pour être avocate en 2024 et pouvoir concilier le gamin qui est à la crèche qui est malade, les conclusions qu'il faut avoir fait pour ce soir minuit, vouloir être une femme et avoir des activités extérieures, une vie de couple épanouie. Ça, c'est des choses dont on peut discuter, mais ça se fait plus autour d'un verre que dans le cadre d'une réunion à proprement parler de femmes.
Si vous aviez un conseil pour une jeune fille qui voudrait se lancer dans la carrière d'avocate, qu'est-ce que vous lui donneriez ?
Je lui dirais d'abord bienvenue. Je lui dirais de contacter les femmes du barreau qu'elles peuvent connaître ou peut-être via pour qu'on puisse expliquer comment ça fonctionne. Ne pas avoir, donc si elles ont fait le droit et qu'elles viennent comme stagiaires, ne pas avoir peur d'aller voir le bâtonnier ou la bâtonnière. D'aller voir les membres du Conseil de l'Ordre, d'aller voir des anciens. C'est en fait un milieu assez solidaire. Je pense que ça ne se perçoit pas de l'extérieur, mais c'est un milieu difficile. Et donc, il y a une réelle solidarité. Et donc, on peut aller vers les autres, en tout cas vers certains, ou vers les autorités, le président du jeune barreau, le président du bureau d'aide juridique, le bâtonnier. Il y a toute une série de fonctions. Il y a la commission de stage aussi, où on peut être écouté, et où on peut obtenir des informations, une aide. On a aussi des activités du jeune barreau qui permettent aux jeunes de se retrouver dans des conférences, dans des soirées, pour apprendre à se connaître aussi avec les plus anciens, pour partager, pour aussi qu'au final, quand on se rencontre dans les dossiers qui sont souvent conflictuels, ça se passe bien. Parce que si on se connaît bien et si on se respecte, ça se passe mieux dans les dossiers. Contrairement à ce que certains pensent qu'il faudrait absolument détester l'avocat qui défend mon ex, eh bien non, souvent il vaut mieux que je m'entende bien avec cet avocat et que je le respecte parce qu'on va arriver à de meilleures choses dans notre travail. Donc voilà, bon, j'ai un peu digressé, mais
c'est très bien.
C'était un peu l'idée.
Et en matière de qualité humaine, voilà, si une jeune fille souhaite se lancer dans cette carrière, quelle qualité pensez qu'il serait important d'avoir ?
L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit parce qu'on est amené à défendre et des intérêts et des personnes qui parfois ne nous ressemblent pas du tout ou avec qui on peut être en opposition sur le plan des idées ou sur le plan de l'attitude,
des valeurs.
On peut défendre un homme violent, on peut défendre des personnes qui ne nous ressemblent pas, mais on est toujours obligé d'essayer de comprendre. Pas d'excuser, mais de comprendre, parce que sinon on n'arrive pas à défendre quelqu'un. Mais c'est comme ça dans le droit familial, dans le droit de la jeunesse, ça peut être comme ça dans le droit du travail. Toujours pouvoir s'ouvrir à « tiens, ben ça, voilà, je pense peut-être pas comme ça, mais voilà, ça m'intéresse. » Et alors, ce balancier, le fait qu'on puisse être d'un côté, de l'autre, fait qu'on est obligé de s'ouvrir l'esprit. Donc, il faut de l'ouverture d'esprit, mais c'est aussi en le vivant qu'on l'acquiert, je pense.
Très bien, merci beaucoup.
Avec plaisir.